ma pratique à moi qui va se passer immédiatement au contact du texte. J'ai le sentiment de réussir à savoir avec qui je serai pendant tout un voyage de lecture dès les premiers mots, dès la première page. Et à voir encore et encore et encore des textes et ne manger que des textes à longueur de journée, j'arrive à percevoir les tics, à percevoir les erreurs, à percevoir les tentatives, à percevoir les envolées, à percevoir un genre, un style qui se révèle en fait très rapidement. Et de retour d'expérience, il m'apparaît que la plupart des premiers romans, on va dire même 95%, le début, il est raté. Complètement raté. Parce qu'il y a justement ça que vous savez qu'il faut accrocher avec ces phrases que l'on voit dans tous ces livres qu'on admire, comme « Hier, maman est morte », je veux dire le plus classique, quoi. Ou bien était-ce aujourd'hui ? Je ne sais pas. Cet incipit-là, on cherche à avoir également dans nos phrases, à les accrocher, à même à traverser l'histoire. Enfin, je pense que c'est le rêve de tout un chacun. Ben, on en fait tellement trop qu'on perd l'honnêteté, on perd la sincérité, on perd la justesse. Et que s'il y a une règle la plus importante, selon moi, quand on écrit, c'est d'être le plus juste. C'est pas être le plus beau, c'est être le plus juste. Dans le choix des mots, dans la structure, de quelque chose qui est le plus honnête, et pas vouloir prétendre être ce qu'on n'est pas. Revenir à quelque chose là de solide, de presque de très bas en fait, par rapport à cette image qu'on a de la littérature. Mais quand on écrit, il me semble qu'il faut être au plus juste et au plus solide de ce qu'il y a en fait à l'intérieur de son bide. Et donc du coup, comme je le sais, ben, en fait, je quitte ce début pour aller plus loin, parce que du coup l'écriture se délie un petit peu, il y a moins de complexe peut-être une fois que l'histoire elle a démarré, qu'on a calé, qu'on n'a pas réussi à bien se lancer, après ça va un peu mieux. Donc je redécouvre l'auteur dans un autre aspect de son texte, pour voir comment s'articulent les unités textuelles, comme par exemple les paragraphes, comment ça commence les paragraphes, comment ils finissent. Comment aussi les chapitres commencent et finissent, voir s'il y a des régularités, s'il y a des structures, voir comment sont construits les dialogues, essayer de comprendre quelle va être la patte, la singularité de l'auteur, des autrices, dans cette façon d'aborder des unités textuelles. Et puis après, je libère un peu ma pensée et, et voir si j'ai envie de tourner la page. Parce que, avant tout, d'être éditeur, je suis lecteur. Et surtout, il faut en fait que j'arrive. Moi, en tant qu'éditeur, à montrer à des gens en salon qui viennent sur notre stand, à montrer en librairie, à montrer à mon diffuseur, donc cette équipe de commercial qui est censée après faire les placements en librairie, que je vibre, que je frissonne, qu'il y a un truc dans ce texte qui m'a fait que lui, je l'ai choisi et pas un autre. Donc, si moi, je ne suis pas convaincu par ce qu'il y a à l'intérieur et la façon dont c'est raconté, c'est sûr que je n'arriverai pas après à défendre votre texte. En tant qu'éditeur indépendant, petite structure, je fais à peu près 6 livres par an. J'essaye d'en faire un peu plus. Cette année, je vais en faire 6. L'année prochaine, je vais essayer d'en faire 7, 8, 9, 10. Je pense qu'au-dessus de 10, j'arriverai plus à faire correctement mon travail. Donc si vous vous demandez quelle maison d'édition choisir, quelle maison d'édition prendra soin de votre manuscrit, de vous en tant qu'auteur, mais aussi de ce texte en tant qu'entité, presque cette matière vivante là qui doit vivre sa vie dans le monde, regardez le nombre de publications qu'ils font par an, regardez le volume de collaborateurs qu'il y a au sein de la structure, et vous voyez globalement si les trucs vont être sérieux ou pas. On peut se poser la question aussi à savoir quelle est la bonne maison d'édition, quel est son genre, quel est son registre, quel type de livre ils font pour pouvoir cibler au mieux en fait, du coup, ma typologie de manuscrit et après ce qu'ils proposent. Internet est facile pour ça, vous voyez, si vous êtes dans de la littérature de genre, très rapidement je pense que vous pouvez voir quelle maison d'édition fait de la littérature contemporaine, qui fait de la poésie, qui fait de la littérature de l'imaginaire, qui est plus orientée sur l'histoire de vie ou sur les livres de développement personnel. Parce qu'en soi, le roman n'est pas l'absolu en termes d'écriture. Et vous avez aussi des maisons d'édition un peu comme la mienne qui fait n'importe quoi. Voilà, il n'y a aucune cohérence a priori. Et pourtant, quand on rentre à l'intérieur de ces histoires, quand on commence à en lire une, à en lire deux, on voit se dessiner une forme de constellation. Moi, ça, c'est mon délire. J'ai pas envie de faire briller les gens de manière isolée, en fait, dans un truc complètement noir. C'est créer des liens. Et que moi, j'ai pas de ligne éditoriale, mais j'ai le sentiment d'avoir une trajectoire. Je vais quelque part, sans savoir où, et ça se trouve, en fait, c'est vous qui allez me donner en fait la direction à suivre pour le prochain livre. Mais il y a dans ma maison d'édition un appétit pour l'écriture, pour prendre l'écriture en tant qu'objet. Il y a un appétit pour la question du transgenrisme littéraire. Comment on fait éclater les cases de la littérature pour mixer, pour avoir des choses qui sont hybrides entre le documentaire, donc on est sur de la non-fiction, et la poésie, parce que c'est écrit en vers libre. Entre une trajectoire de vie autobiographique, mais qui prend comme objet l'écriture, et qui donne du coup la rédactrice, où c'est 50 ans de vie de Michel Cohen, qui écrit son premier roman à 74 ans, elle qui a écrit toute sa vie pour les autres, et l'écrit pour la première fois pour elle-même. Elle prend comme objet, non pas sa vie, mais son rapport à l'écriture. Il va avoir une autobiographie, l'histoire de Léo, c'est la bagarre, c'est son histoire, son portrait familial, qui aussi se bat avec l'écriture, pour écrire ce qu'il a à l'intérieur de son bide. Il va avoir de la fiction, il va avoir de la fiction de l'imaginaire. Et en fait, tout ça montre que certaines maisons d'édition, on pourrait en citer d'autres, comme le Diable Vauvert qui est ici aussi présent, ça écartèle, ça fait des essais, ça fait même des textes sur la théromachie, enfin, ça fait des textes aussi sur le transgenre, mais là, beaucoup pas littéraire, mais ils sont aussi elles-mêmes transgenres littéraires. Et il y a des maisons d'édition qui sont extrêmement curieuses. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que même vous tapez à côté, c'est pas grave, peut-être que cette maison va vous bâcher pour vous dire « t'as rien compris à ce qu'on fait », on s'en fout, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui, lui, s'en foutra de pas être compris dans ce qu'il fait. Parce que, en fait, ça se trouve, il y aura quelque chose qui va être intéressant pour cette maison d'édition. C'est vrai que c'est agaçant de recevoir des livres, des manuscrits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est votre problème? Non mais, en même temps. Donc moi, je m'agace de mon côté en disant « t'as, on fait chier », mais en même temps, on s'en fout. Enfin, voilà, ça me fait chier dans l'instant et puis je passe à autre chose. Vous aussi, vous envoyez et puis tentez, osez déjà écrire, ça en soit tellement complexe, que dans vos tentatives et dans votre ouverture au monde, quand vous allez là avec votre bébé, avec tout ce que vous y avez mis, allez-y, quoi. Osez, comme vous avez osé écrire, osez dire que vous l'avez écrit et proposez-le. De la même façon que moi aussi, à mon niveau en tant qu'éditeur, tout ce que je fais, c'est de la proposition. Personne ne nous attend, personne ne nous demande rien, on s'en fout de ce qu'on fait. Tous les livres que je fais, tout le monde s'en fout. Donc on peut aussi considérer que vous, tout le monde s'en fout, moi aussi tout le monde s'en fout. Et alors, on fait des propositions, on essaye de rendre ça, je vais utiliser ce mot encore et encore, solide, dans le sens où c'est pas du vent, c'est concret. Il y a une histoire, il y a une singularité, il y a une patte, et on essaie de le proposer au monde. Et après c'est au monde de s'en emparer ou pas. Donc des fois il y aura des immenses succès. Donc là, le tout premier, le dépucelage en tant qu'éditeur, on en a vendu des palettes de ce bouquin-là. Repris en folio, prix folio des lycéens, un premier roman, une première publication dans une petite maison d'édition, mais qui a énormément de succès. Et pourtant, il y en a d'autres qui pour moi avaient la même vibration, rien, aucun écho, incompréhensible, mais c'est comme ça. Est-ce que à ce stade vous avez des questions en particulier ou des choses que vous aimez de deux heures avec les petits jeunes que j'essaye de former au travail dans le monde du livre et de l'édition où on fait de la lecture en direct de manuscrits hors tard. Là, on est en train de finir le mois de septembre par exemple, alors qu'on est début avril. Et on fait une lecture en direct ensemble. Et je les interroge sur qu'est-ce qu'ils y trouvent, qu'est-ce
qui, donc là, grâce à ce travail d'équipe, on met du temps à discuter et réfléchir autour des manuscrits. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Effectivement, 5 minutes et encore, c'est déjà beaucoup. Mais en 3 minutes, en 2 minutes, on peut le savoir si c'est quelque chose qui nous correspond ou pas. Donc après, on place ça dans un dossier qui s'appelle refus à renvoyer, donc pour informer qu'on n'a pas retenu le manuscrit. Ou on a un autre dossier, c'est lecture en priorité à lire pour la semaine prochaine. Donc dès qu'il y a quelque chose qui. On sent qu'il y a un truc, il faut qu'on aille creuser. Et donc il y a au moins une lecture plus approfondie qui se fait dans la semaine et après on en discute la semaine suivante. Et la semaine suivante, on en reparle, qu'est-ce qu'on y a trouvé dans une lecture un peu plus approfondie pour passer à une lecture intégrale. Voilà. Donc on fait une lecture un peu plus approfondie et après on fait une lecture intégrale sur ce premier contact, ce deuxième contact de lecture approfondie et après lecture intégrale. Une fois que moi, je commence à tomber amoureux en fait, d'un texte, je le soumets toujours à quelqu'un qui n'est pas dans mon délire, pour pas que je sois seul en fait, avec ça. Parce que si je commence à devenir seul dans mon délire, c'est des voix de sorciers, des voix de sorcières, et après ça crée énormément de frustration quand ça ne marche pas. S'il y a un truc que j'ai compris, c'est pas être seul en fait, avec nos délires. C'est de réussir à trouver une sensibilité différente à côté de nous qui est capable de nous dire quand on fait n'importe quoi ou quand on fait les choses bien et que ce soit quelque chose qui puisse être un support et un apport dans notre folie. Il ne faut pas qu'on soit seul avec ça. Et la deuxième question qui était sur le travail, j'ai la chance ou la malchance de ne pas être soumis à des problématiques financières. Donc dans le sens où, pour que moi je puisse exister en tant qu'éditeur dans le marché du livre tel qu'il est, il faut que j'ai, là ça va peut-être vous choquer, mais la meilleure propriété intellectuelle possible. Il faut que ce contenu, ça se trouve le livre est nul, dans le sens sa couverture est nulle, la maison d'édition qui est associée est nulle, sa capacité d'être achetée est nulle, le livre est nul, mais ce qu'il contient est excellent. Il faut absolument que je vérifie que ce qu'il contient est excellent. Vous voyez la différence entre le livre et ce qu'il contient ou pas ? Pour moi, il faut que je me saigne, il faut que je sois capable de me saigner pour le texte. Déjà d'une part, et qu'en plus de ça, ma mise financière, elle s'étale en fait sur une carrière de livre et une carrière d'auteur sur du long terme. Surtout sur du primo-romancier et du primo-romancière, quoi. Donc ça se trouve, il n'y aura qu'un one-shot, j'en sais rien, mais le livre m'a tellement fait vibrer à cet instant que pour moi, il m'accompagnera pendant toute ma carrière d'éditeur. Il me semble que c'est ça, quoi, par rapport à la surproduction. Donc des fois, il y a des manuscrits que moi, je considère comme propres. Donc là, par exemple, en termes de droits d'auteur, ils ont un plus 1 en termes de droits d'auteur par rapport à des manuscrits qui exigent beaucoup de travail, où là, qu'importe le travail, on travaille tant que le livre, on considère qu'il n'est pas fini. Enfin, qu'il ne va pas vivre sa meilleure vie en tant que livre.
Oui.
C'est une question sur la distribution.
En fait, j'ai été confrontée à 4 fois au même problème, donc je voulais avoir votre avis. Donc il y a 4 éditeurs qui ont voulu m'éditer. Je fais partie de la Société des auteurs parce que j'ai déjà été éditée en 2015 par une société d'édition qui n'existe plus, donc du coup je me retrouve sans éditeur. Et à chaque fois, je suis confrontée au même problème. Donc j'envoie le contrat, je fais partie de la SCAM, donc au service juridique. Et à chaque fois, il manque le côté promotion où les éditeurs donc, ne s'engagent pas, ils n'ont pas de distributeur, enfin, c'est un peu une cata. Et quand moi j'arrive bienveillante en disant « Attendez, il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça », mais je me fais lyncher. Et donc du coup, évidemment, l'édition ne se fait pas. Après, je me dis que c'est une bonne chose, c'est qu'ils ne savent pas assumer. Mais moi, dans mon idée, je vais dire un contrat, ça se négocie. Et c'est quelque chose qui va se faire ensemble. Et je tombe toujours sur des éditeurs qui veulent comme ça avoir un pouvoir et tout imposer où il n'y a pas moyen de dialoguer. Donc je voudrais savoir par rapport au contrat. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez.
sur la question de la distribution, donc c'est un terme dans le monde du livre qui concerne l'aspect logistique de l'acheminement des livres vers les points de vente, donc généralement les librairies où lecteurs, lectrices passent en commande. Et la distribution est un point assez important parce que beaucoup de librairies ne veulent pas travailler avec des éditeurs qui ne sont pas distribués, donc qui n'ont pas un prestataire qui a des entrepôts, qui a des chaînes logistiques, qui a plusieurs volumes de livres qu'ils envoient en même temps. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé en tant qu'auto-distribué. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait les choses moi-même. Bon. Je le faisais. J'envoyais des colis, j'envoyais Enfin, on a vendu 4500 exemplaires de ce bouquin en étant autodistribué. Donc, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos prétentions? C'est quoi votre exigence? C'est quoi votre connaissance, en fait, sur le fonctionnement du milieu du livre? Et surtout, derrière, ça va être quoi votre déception par rapport, justement, à tout ça? Donc il faut déjà lister, vous, qu'est-ce que vous attendez? Avoir une publication ou avoir des lecteurs ou encore avoir la renommée? Et ça, c'est à vous de voir. C'est votre tambouille.